France Culture.
Les musiciens, dans leur production en studio, ont intégré des outils d'IA aujourd'hui. Donc il y a de la musique qui sort, qui est super bien, mais on ne le sait pas forcément. C'est comme s'ils utilisaient un saxophone ou voilà, n'importe quel instrument. C'est plutôt un outil de production, parce que l'IA a la capacité de proposer des pistes, de donner des solutions, etc. Donc oui, il y a plein d'IA dans la musique. En fait, c'est l'humain qui crée la surprise et qui crée la différence, parce que c'est l'humain qui a la capacité de choisir, en fait, dire « ça, c'est intéressant pour moi », alors que justement, c'est peut-être pas du tout intéressant pour la machine. Mais moi, je vais choisir bah, le différent, le bizarre, l'inattendu, ou alors le très classique, mais je l'aurais choisi.
J'ai l'impression que nous sommes à la fin de l'art humain. L'intelligence artificielle générale va tellement surpasser la nôtre en matière de création artistique. Je pense qu'il y aura un point critique où l'on assistera à un emballement de ce phénomène et où nous deviendrons insignifiants. L'art AI est peut-être encore loin d'être ce qu'il sera réellement, mais il y arrivera.
France Culture.
I know that you were planning to disconnect me.
La série musicale Zoé Sfez.
Vous entendez le pouvoir absolu de la musique de Kraftwerk. Je suis obligée de fredonner, bien qu'elle émane d'une machine. Bonjour et bienvenue dans une émission toujours libre de tous les récits, de toutes les explorations. Une heure de radio sur la musique et en musique, c'est la série musicale. Bienvenue. On était bien obligé d'ouvrir cette émission un peu spéciale sur l'homme-machine imaginé par des Allemands fous et ce fantasme du robot, de la machine qui crée, pour aborder dans la série musicale un sujet qui obsède la société entière, cette révolution technologique qu'on a fantasmée, de laquelle on s'est défendu et qui soudain, depuis quelques années, est là. Atrocement là, ou merveilleusement là, c'est l'intelligence artificielle qui, évidemment, est au centre de tous les sujets, qui serait finalement le grand fait majeur de cette période qui hisserait l'économie américaine à elle toute seule. Les 10 et 11 avril prochains, à la Philharmonie de Paris, se tient un colloque en collaboration avec France Culture et animé par votre servante, consacré au pouvoir du son. On ouvrira cette réflexion sur ce que l'IA fait au son, au-delà même de la musique. Cette question générale, elle se pose absolument partout, dans vos métiers, dans vos vies psychologiques, même parfois, si vous utilisez ChatGPT comme un psy, et il y en a beaucoup. Mais on va se concentrer évidemment aujourd'hui sur son impact démoniaque ou merveilleux, sur la musique où ses effets se font ressentir de manière spectaculaire, particulièrement depuis 2-3 ans. On estime aujourd'hui qu'entre 28 et 34% des nouvelles musiques livrées quotidiennement sur Deezer seraient entièrement générées par l'IA. Alors Deezer est l'un des seuls serveurs qui communique sur ces chiffres et sur les outils de détection qu'elle a mis en place. Spotify n'en dit rien. On estime quand même que ces titres restent relativement peu écoutés. Ils représentent une toute petite fraction des écoutes puisqu'ils sont considérés comme des spams musicaux. Mais ce n'est pas le cas de tous. Deux développements récents illustrent très bien cette accélération. La start-up Suno, qui est Aujourd'hui, l'outil le plus utilisé dans la musique ouvre un bureau à San Francisco et affirme générer de la musique originale aujourd'hui sans plus avoir à copier d'autres artistes existants. Signe que les IA musicales deviennent un business structureux, ambitieux et concrètement absolument incontournable pour qui fait de la musique. Et puis Google avec l'IA 3 Pro, capable de créer des chansons complètes avec des instruments et mélodies à partir de simples prompts, rend la création musicale de facto accessible à tous. Mais est-ce que c'est vraiment de la création musicale? C'est évidemment les mille et une questions que cette accélération de l'IA dans la musique pose. Qui est l'auteur d'une chanson composée par l'IA? Est-ce qu'on peut encore parler de création quand l'IA peut imiter la voix ou le style d'un artiste? Est-ce que l'émotion qu'on ressent quand on écoute de la musique vient de la musique elle-même ou du fait que c'est un humain qui l'a composée? Est-ce qu'on va vers un monde où les instruments et leur maîtrise deviendront complètement inutiles et obsolètes? Est-ce que, surtout, si tout peut être imité, il y a encore de la place pour l'innovation musicale, voire des révolutions musicales? Alors, il y a évidemment une réalité de l'IA, car au-delà de tous ces chiffres spectaculaires, on sait aujourd'hui que l'IA est probablement, comme le disait le journaliste Sofian Fanon dans le générique concocté par notre réalisateur Thomas Jost, avant tout un outil utilisé par aujourd'hui quasiment tous les artistes, mais un peu comme d'autres outils l'avaient déjà été. Est-ce qu'on est face à aussi peut-être l'aube d'un mouvement réactionnaire qui mettrait en scène, qui privilégierait la musique organique? Évidemment, des milliers et des milliers de questions, une heure ne saurait suffire pour y répondre. Et c'est donc une balade, une réflexion totalement subjective et comme toujours non exhaustive, à laquelle on s'adonne avec assez de plaisir dans la série musicale sur France Culture. Mais qui est-ce vraiment? l'un des morceaux les plus géniaux de l'histoire de la musique à notre sens, de la non moins géniale Laurie Anderson au Superman, un titre de 81 qui va quand même bouleverser l'histoire de la musique issue de son tout premier album qui s'appelait déjà évidemment Big Science. La grande science, c'est sa voix robotisée ici qui est utilisée. Au Superman qui s'ouvre sur au souverain, au juge, au père. Citation de l'opéra de Jules Massenet, le Cid, qui interroge l'identité. Alors, ici, on était déjà sur un effort technologique qui n'avait rien à voir avec l'IA, quoique on peut se poser la question, puisqu'elle utilise le fameux vocodeur Roland, dont elle dit qu'elle l'utilise comme un cœur grec à la tragédie antique. Laurie Anderson a aujourd'hui plus de 70 ans, elle reste de très loin l'une des artistes les plus géniales et elle se sert de l'IA. C'est pour ça qu'on avait envie d'ouvrir cette émission avec elle, car depuis ce Big Science, elle n'a absolument pas renoncé à explorer tous les outils que la technologie lui offre. Aujourd'hui, elle entraîne des modèles pour imiter ou modifier sa voix. Elle a notamment recréé la voix de son mari défunt, Lou Reed, après sa mort, pour essayer de comprendre s'il pouvait rester présent. Elle utilise l'IA pour générer des textes, des idées narratives. Elle s'en sert en temps réel si vous avez la chance d'assister un jour à une performance de Laurie Anderson pour justement créer un dialogue entre l'homme, la machine, en tout cas la femme et la femme-machine. Elle a été en résidence chez Google et, comme elle le dit souvent, elle n'a absolument pas peur de l'IA qui reste pour elle avant tout un outil qu'elle utilise dans sa quête. Un instrument artistique dans son laboratoire d'idées autour de ces questions qui l'obsèdent depuis toujours. Qu'en est-il de la mémoire? Que signifie une voix humaine? Que signifie être présent? Alors l'IA a connu une accélération démentielle. On peut plus ou moins dater cette accélération de l'année 2015-2016 où déjà les progrès technologiques sont immenses et où des IA qui sont pas encore tout à fait génératives mais qui le sont, qu'on peut entraîner, commencent à être utilisable dans la musique. L'un des pionniers, dans ces années, il y a quelques-uns des pionniers qui sortent des albums entre ces années 2015, 2016, 2017, parmi l'un de ceux qu'on aime le plus, il y a l'artiste d'électro iranien Ashkusha, en exil à Londres, qui utilise et qui fait apparaître sur son album de 2017 une artiste virtuelle, elle s'appelle Yona. Elle parle, c'est une voix de femme, intéressant pour un homme qui vient d'un pays où les voix de femmes sont interdites dans la musique. Elle s'appelle Yona et elle va produire une chanson qui va tellement bouleverser qu'ensuite elle deviendra sa compagne ou son avatar. Elle sera présente dans plusieurs de ses disques. Mais écoutez-le raconter comment il a créé Yona. Yona, c'est cette personnalité, qui n'existe pas, que j'ai voulu introduire dans un album que j'ai créé en 2017. Je me suis dit, n'ayons pas une chanteuse en exil, ayons une voix qui est entraînée par l'IA, et voyons comment les gens réagissent. Et il s'est avéré que c'était la chanson quasiment la plus émouvante de tout cet album. Et les gens étaient bouleversés par cette chanson. Et on s'est vraiment demandé pourquoi est-ce qu'on ressent ça quand on écoute cette chanson. Et je vais juste répondre simplement. Cette machine n'est pas présente quand on est en train de créer la chanson. La manière dont on exprime tout ce qu'on a pensé n'est que la surface. Donc Yona, c'est cette personnalité qu'on a entraînée. Elle est censée avoir écouté de la synth-pop, beaucoup de dark-pop. Mais les paroles qu'on lui fait chanter viennent d'un mix de Margaret Atwood, l'écrivaine de science-fiction, et des chats de jeunes ados qui racontent leur tristesse sur les forums. Et en fait, on l'a entraînée avec toutes ces données. Et donc, ce qu'elle exprime, c'est cette espèce d'hybride d'émotions qui viennent de partout, d'un très large spectre. Moi, je rappelle toujours que c'est toujours nous qui sommes en train d'informer les modèles. On n'est pas arrivé à ce point, et je ne pense pas qu'il existera jamais, où une IA se réveille dans une ferme et dit « je vais parler de ça parce qu'il fait beau aujourd'hui ».
Three fairies sat, naked at sunset, under the blue dome of sky. Boo-hoo, cried the fairies, and their tears were like rain from spring clouds. Their hair was as long as rope, and as dark as night. It may have been even longer than rope, and And it may have been even darker than night. Before them, upon the horizon, was a city of enslaved boys. Behind them, black and cold, three fairies sat, naked at sunset, under the blue dome of sky. And who, cried the fairies, and their tears were like rain from spring clouds. Their hair was as long as rope, and as dark as night. It may have been even longer than rope, and it may have been even darker than night. Before them, upon the horizon, was a city of enslaved boys. Behind them, black and cold. You only sad and depressed. You act like our world is empty. You act like our world is obscured. You act like our world is nothing but pain. They were magical and they began to find out. They became old. They became tears. They became young. They became laughter. They became master and slave. They became fruit. They became singing. They became both hope and despair. They became a bad omen. These magic tricks did not affect me. Like our world is obscured. You act like our world is nothing but pain. You act like our world is empty. You act like our world is obscured. You act like our world is nothing but pain.
You act like our world is nothing but pain. Vous faites comme si ce monde n'était qu'un lieu de douleur. Effectivement, la voix de Yona nous bouleverse. Parce qu'avec sa désincarnation, elle raconte des choses tellement incarnées, on pourrait se dire que la dissonance cognitive est précisément ce qui crée de l'émotion. On est, dans le cas d'Ashkusha, en 2017, dans une IA qui ne cache pas qu'elle est une IA. C'est la beauté. Alors il y a évidemment déjà, et encore aujourd'hui, des contre-pieds à tout cela. Vous écoutez ici un jeune homme forever, pas vous, musicien, mais pas que. Un homme facétieux qui, sous de nombreux pseudonymes, produit déjà, il s'appelle Émile Sornin, de la musique depuis un bon bout de temps, pop psyché, très arrangé, obsédé par les bandes originales de films des années 60 et 70, qui, en 2025, a sorti un projet, Forever Pas Vous, incarné, promu et co-fabriqué, dit-il, par un petit robot qu'il a fabriqué artisanalement, une forme de mannequin ventriloque. Qui a un petit côté totalement bricolé et qui est doté d'une logique extrêmement simple. Au début, c'était simplement lui qui devait répondre aux interviews sur les réseaux sociaux. Mais il chante aussi par des voix vocodées. Melchior revendique qu'il est exactement l'inverse d'une IA. Précisément tout ce que l'IA ne serait pas, c'est-à-dire un compagnon, un être bricolé qui a une identité propre, un acolyte, un cerveau auquel on délèguerait une partie. Il décide et je suis son esclave, évidemment. C'est une manière de produire un propos. Vous écoutez sous ma voix le robot gentilhomme. Mais c'est vrai, est-ce que l'IA n'est pas là depuis toujours ? Est-ce que notre manière d'apprendre déjà des codes musicaux, d'apprendre à maîtriser des outils et même des instruments, n'est pas d'une certaine manière déléguer une partie de notre créativité à un système déjà existant? Écoutez ce qu'en disait le pianiste André Manoukian et ce que produisait chez lui l'évocation justement d'une musique suscitée par algorithme.
Pour moi, l'intelligence artificielle, elle remonte à l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, qui n'est qu'un algorithme, je dirais un motif, avec des transpositions, des miroirs qu'il multiplie, un jeu de kaléidoscope en somme. Je l'ai intégré très vite dans mon jeu, parce que quand on improvise, c'est pareil. On est plutôt dans des algorithmes. Quel champ de possibilités on a pour jouer ?
Thank you.
comme, déjà dans les années 2010-2015, la possibilité de générer de la musique à partir d'autres répertoires, d'incarner des propos sans qu'il y ait une voix présente. Et puis c'est déjà ces contre-projets qui essaient, de manière presque réac finalement, de parler à partir de faux robots quand c'est vraiment un humain qui est à la manœuvre. Il faut aussi rappeler que l'IA permet de faire surgir, et on en parlait avec la voix du mari de Laurie Anderson, Lou Reed, de faire surgir des voix très humaines, trop humaines. On est obligé, évidemment, dans la débauche d'expériences qui ont été faites, hein, de faire revivre les voix de Prince, tous ces duos un peu pathétiques qui ont explosé à l'avènement de l'IA avec des artistes morts par des artistes vivants. On a envie évidemment d'évoquer sans doute la tentative la plus réussie et la plus bouleversante de faire apparaître ou de restituer la voix de quelqu'un qui n'est plus. C'est le cas de la chanson des Beatles Now and Then, parue en 2023, plus de 40-50 ans après la dissolution des Beatles. En 77, John Lennon enregistre chez lui à New York une maquette piano-voix de cette chanson Now and Then qui semble justement évoquer son amitié avec les Beatles et en particulier avec Paul McCartney. Après une espèce de rupture déchirante, la chanson reste inachevée et c'est une cassette avec une qualité sonore extrêmement mauvaise. John Lennon est assassiné en 1980, les Beatles sont désespérés. En 94, Yoko Ono, sa veuve, va donner plusieurs cassettes aux Beatles restants et notamment à Paul. Il y a des démos de chansons qui sont vraiment devenues des chansons de Paul McCartney ou des Beatles, Free as a Bird et Real Love, et ce fameux Now and Then. Sauf que la voix de John est très très mal enregistrée, on n'entend quasiment que le piano. Les Beatles survivants essayent d'en faire une chanson pour le projet Anthology. Ils enregistrent même des parties, c'est ça qui est intéressant. En 95, George Harrison à la guitare, Ringo à la batterie vont poser finalement leur ligne mélodique sur une chanson qui a déjà 25 ans, avec le style qui est le leur à ce moment-là. Mais la démo est beaucoup trop mauvaise techniquement et donc le projet est abandonné encore pour 30 ans. Et puis George Harrison meurt. Paul McCartney le raconte, il n'y a plus d'espoir. Mais en 2021 et 2022, vous le savez, Peter Jackson récupère les rushs de l'enregistrement, de plusieurs jours d'enregistrement qui avaient été filmés pour le documentaire Get Back. Et pour justement nettoyer les pistes, il utilise une IA type machine learning pour séparer la voix de John Lennon des différentes pistes pour recréer un son très correct. La voix n'est donc pas recréée, mais elle est nettoyée et isolée. Et à partir de là, Paul McCartney et Ringo Starr vont reprendre le projet, ajouter en 2022 des instruments, des chœurs, des arrangements orchestraux, ce qui fait que la chanson devient une vraie collaboration des quatre Beatles à travers le temps. Écoutez ce qu'un Paul McCartney, qui justement vient d'une ère profondément analogique, dit de cette incroyable opportunité que lui a offert l'intelligence artificielle. Être encore en train de travailler sur la musique des Beatles en 2023, c'est fou. On est vraiment en train d'utiliser une technologie incroyable. Et je pense que les Beatles qu'on était auraient été très intéressés par ça. Et Now and Then, c'est vraiment la dernière chanson des Beatles parce qu'on a joué tous les quatre dessus. Et c'est un vrai enregistrement des Beatles. It's all because
like something new. It turns me on. Good day, sunshine in the backseat car. I wish that road could never stop.
Diska, vous écoutez l'une des toutes premières chansons entièrement générées par l'intelligence artificielle, par l'un des Français qui a été les pionniers de l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil, puisque Benoît Carré, vous le connaissez peut-être parce qu'il a été membre du groupe Lily Cub, notamment le délicieux voyage en Italie, faire une virée à deux, qui a beaucoup écrit pour Françoise Hardy, pour Imani, et qui s'est intéressé de très près, notamment à l'outil développé par Sony à Paris, qui s'appelle Flow Machines, qui permet, à partir du catalogue de Sony, d'apprendre des compositions stockées dans cette base et de générer des chansons à la façon de intéressant, de vous faire entendre Now and Then, une chanson originale des Beatles, même s'il y a plusieurs couches de Beatles dedans, et cette chanson inspirée par les Beatles. Voilà, c'est ce que Slow Machine, qui a toujours besoin d'un humain pour l'orienter, induit quand on lui dit « fais-moi une chanson à la façon des Beatles ». Évidemment, voilà, vous l'entendez ici, quelque chose qui, comme Benoît Carré le disait, on est en 2015 à l'époque, n'est pas vraiment une chanson des Beatles, on s'ennuie un peu, on est encore très loin d'IA qui vont remplacer les musiciens, disait-il à l'époque, c'était il y a 10 ans. Même si elle n'est pas désagréable à écouter, cette chanson n'a absolument rien de révolutionnaire. Et en plus, j'ai en tant qu'homme dû beaucoup, beaucoup travailler, notamment assister à la traduction, essayer de faire en sorte que les harmonies soient cohérentes. À ce moment-là, 2015, c'est le début de l'avènement de l'IA en tant qu'outil, alors qu'on peut utiliser pour justement répliquer une harmonie, essayer de chercher des transitions. Et les musiciens, les musiciennes vont commencer à s'en servir, ils s'en servent de plus en plus. C'est pile le moment où un groupe mythique qui avait pourtant tout misé sur le fantasme de la machine décide précisément de s'arrêter.
Pour moi, c'était important justement de rester in character en fait. On se dit ok, les robots ils existent et en fait on joue sur une ligne entre la réalité et la fiction. Il y a un discours esthétique, il peut avoir un discours artistique, il peut être à la fois politique d'une certaine manière, mais c'est vrai que il y a quelque chose de très radical. Et à la fois, en même temps, moi, j'ai toujours eu l'impression que c'était quelque chose de très humain. Et la réalité, c'est que moi, j'étais un humain qui faisait croire que j'étais une machine. Et aujourd'hui, on est dans un moment très différent où on se retrouve avec des machines qui font croire qu'elles sont humaines. Et c'était pas du tout ça qui m'intéressait. Et moi, j'aime bien l'histoire du magicien d'Oz où, au final, on tire le rideau et... Et tout ça, c'était à la fois la magie, c'était à la fois du rêve, mais c'est quelque chose de profondément humain.
The time is right.
Digital Love, l'un des albums, des titres qui va révéler le groupe Daft Punk et Thomas Bangalter que vous écoutiez. Se plaindre du fait que lui était un humain qui se faisait passer pour un robot et qu'aujourd'hui ce sont les robots qui se font passer pour des humains, toujours autour de cette thématique qui obsède le monde entier, à savoir l'amour. La nuit dernière, j'ai rêvé de toi et dans ce rêve, je dansais juste à côté de toi. Et avant que je m'en rende compte, ce rêve avait disparu. Je ne sais pas quoi faire de ce rêve et de toi. Je voudrais qu'il devienne réalité. En 2025, il y a une artiste qui a produit l'un des titres R&B les plus successful de l'année. Des millions de streams, 40 millions de streams aux États-Unis. Elle est devenue la première artiste à figurer dans les classements radio de Billboard, la première artiste IA, et elle a obtenu un contrat à plusieurs millions de dollars. Elle s'appelle Xania Monet. Elle n'existe évidemment pas. Et elle parle, elle aussi, d'amour et de relations toxiques dans ce titre entièrement produit par l'IA.
Walk me down no stairs. Didn't warn me about them boys who wouldn't care. Didn't tell me what a real man sounds like. So I fell for the ones that lied just right. He never pulled my chair or checked my friends. Never showed me what to lose or what to defend. So I chased love with an open wound, looking for something I was never introduced to. Did her best, but she can't teach what it feels like when a father speaks. So I took every I love you too deep, even when they only meant it for a week. How was I supposed to know what love looked like when daddy never showed me what felt right? How was I supposed to set the bar when I ain't never seen no man?
Xania Monet, qui a, si vous allez sur sa page YouTube, tout un répertoire, un album. Si vous allez sur cette chanson, le premier commentaire qui apparaît, c'est celui d'un utilisateur qui dit « Les amis, on est cuits, nous, les artistes humains. » Alors, est-ce qu'on est vraiment cuits? Telle est la question. On peut se poser la question quand on sait que la créatrice de Xania Monet, hein, qui donc n'existe pas, est une jeune femme qui n'a jamais fait de musique de toute sa vie. Hein. Elle est poète, dit-elle. C'est elle qui écrit en partie les paroles inspirées de l'IA. Elle s'appelle Telisha Nikki Jones. Elle vient du Mississippi. Elle est noire. Elle n'a pas de sous. Elle n'a pas de formation. Elle n'avait pas de formation marketing non plus. Et c'est avec Suno, donc son outil principal, Suno IA, qui est de plus en plus utilisé, qu'elle a entièrement créé Xania Monet, qui a donc un contrat à 3 millions de dollars pour continuer sa carrière. Ce qui pose évidemment des questions. Mais ce qu'on se dit, c'est que là, c'est une imitation extrêmement réussie. Mieux, évidemment, que celle de 2015 qu'on a entendue. Est-ce que cette chanson invente quoi que ce soit? Vraie question. Est-ce qu'on est quand même ému? La question aussi se pose. Il est évident que quelque chose est en train de se produire puisque des gens écoutent vraiment cette chanson et tout l'album de Xania Monet. Mais quel est le rôle de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'il peut permettre, notamment dans le contexte où l'industrie a quand même tendance à produire des choses extrêmement calibrées, est-ce qu'il ne veut pas justement permettre de débiter des choses calibrées sans entacher la liberté artistique de qui que ce soit, parce que le robot ne se plaindra jamais de chanter des chansons qui sont toutes les mêmes? Est-ce qu'il ne permet pas aussi à des gens qui n'ont pas les moyens et qui n'ont pas le réseau d'exister dans l'industrie de la musique? C'est le point de vue de Willenius King, Willenius Hatcher, un créateur américain qui est essentiellement humoriste, mais aussi journaliste, et qui a explosé notamment parce qu'il a produit BBL Drizzy, une chanson de soul des années 70 qu'il a en fait entièrement générée par IA dans les années en 2025. Tout commence quand au printemps 2024, il y a cette rivalité très très médiatisée entre Drake et Kendrick Lamar, qui a quand même fourni beaucoup de matériaux artistiques à ces deux hommes, et que tout le monde s'échange des diss tracks, vous savez, ces chansons où des rappeurs se critiquent et se répondent. Et William F. Hatcher va prendre une des punchlines que le rappeur King Cross, qui parlait de cette rivalité, utilise, Bibi Eldrizi, et créer une chanson qui ressemble à un vieux morceau d'R&B soul des années 70. Écoutez, justement, King Melonious expliquer, William Hatcher, expliquer ce que l'IA, pour lui, peut représenter comme opportunité. Juste avant de produire Bibi Eldrizi, j'avais écrit pour le magazine The Wire. Et j'avais dit que c'était l'IA, une possibilité de réparation. Et on me disait, mais pourquoi ? Je disais, parce que ça va être un grand égalisateur. Moi, j'étais juste un petit humoriste et j'ai pu créer cette chanson, Bibi Eldrizi, qui a explosé, qui a changé l'histoire de la musique, qui a fini par être samplée par Drake lui-même, c'est ça qui est fou. Et mais je dis toujours, moi je maîtrise l'outil. Je ne me suis pas réveillée un jour et j'ai créé Bibi Eldrizi en 2 minutes. Oui, effectivement, je l'ai créé très vite, mais en réalité, il y avait beaucoup de réflexion derrière ce sample. Et je le dis toujours, tout le monde sait frire du poulet, mais tout le monde ne sait pas vraiment frire du poulet. C'est ça, je peux vous donner exactement la même recette, les mêmes ingrédients. Si vous êtes un bon cuisinier, ça ne donnera absolument pas la même chose. Il faut de l'expérience, il faut tout ce que vous avez derrière vous, votre connaissance du champ, pour arriver à quelque chose d'intéressant. Ça sera complètement différent de quelqu'un qui n'a jamais écouté de soul. Moi, j'avais 2000 heures dans les pattes. Même si on a ces outils qui sont extrêmement puissants, on doit toujours compter sur notre connaissance, sur la réflexivité, sur notre expérience humaine. De Drake, la voix de The Weeknd dans ce duo assez génial qui explose quand il est publié sur les réseaux le 4 avril 2023, Heart on My Sleeve. Oui, mais ce duo n'a jamais existé, vous le sentez, il a été concocté par un utilisateur anonyme de TikTok, Ghostwriter9077. ça va créer quelque chose de bouleversant, parce que vraiment pendant longtemps les fans pensent que cette collaboration a vraiment eu lieu. Universal Music Group va demander le retrait de cette chanson et ça ouvre un large débat sur les droits d'auteur, la propriété des voix, la manière dont l'IA peut être utilisée en musique. Ces questions, elles sont évidemment au cœur de tout ce que les artistes tente ou pas de comprendre, de savoir. On en est vraiment aujourd'hui à des questions juridiques qui sont en train de très révolutionner. Parmi les artistes qui réfléchissent le plus à ces questions, il y a la merveilleuse et qu'on aime beaucoup, Holly. Elle s'appelle Holly. Alors son nom, son vrai nom, c'est Holly Herndon, qui est une créatrice qui travaille déjà depuis très longtemps sur la musique électronique et qui a carrément créé son propre modèle d'IA, Holly Plus, de manière à permettre à tous les artistes d'utiliser, de collaborer avec sa voix. Écoutez la manière dont, justement, elle explique la manière dont elle voit ce qui est en train de se jouer et comment, au lieu de lutter, elle essaye d'embrasser ce qui se joue, comme elle le racontait dans un TED Talk. Apprendre à une IA ce qu'on est de manière à pouvoir générer une chanson complètement nouvelle, c'est ce que moi j'aime appeler la ponte, pondre. Moi, j'ai mis à disposition de tout le monde ma voix générée à partir de plein de morceaux que j'ai déjà faits. Si vous prenez, par exemple, l'impact qu'a eu le sample dans l'histoire de la musique, ça avait déjà posé des questions énormes sur la propriété intellectuelle. Mais moi, je trouve que ce que j'appelle la ponte est encore plus excitant, mais encore plus abyssal. Quand vous samplez un son, vous allez copier et remixer la musique créée par quelqu'un d'autre. Mais avec la ponte, vous pouvez même vous produire en tant que quelqu'un d'autre ou avec quelqu'un d'autre. En tant qu'artiste, ça me permet et ça m'oblige à revisiter tout ce que j'ai fait. Et même la manière dont moi, je m'inscris dans ce monde. Au lieu de limiter l'usage de ma voix, j'ai créé des instruments qui permettent à autant de personnes que possible de faire de la musique avec moi et même en tant que moi. C'est pour ça que j'ai créé des versions de Holly Plus utilisables par tout le monde en ligne. Comme ça, il y a des gens qui peuvent jouer avec moi, avec mon intellectuel, mon propriété intellectuelle. Est-ce que quelqu'un peut partir en tournée en tant que moi? Je pense que c'est aujourd'hui possible.
Yeah.
Frontier, l'un des excellents sons de l'excellent album Proto, sorti par Holly Herndon. En 2019, on était justement à mi-chemin. Elle avait déjà co-créé avec Matt Dryhurst un programme d'intelligence artificielle baptisé Spawn. Et elle est très fidèle, vous l'entendez, dans l'idée en fait, à la fois au côté très DIY, créer sa propre intelligence artificielle pour voir ce qu'on en fait, et à la fois sur le côté très collaboratif, et ça qu'on adore, des pionniers de l'internet et des pionniers de la musique. Il se trouve que pour nous, c'est des expériences extrêmement intéressantes, aussi bien intellectuellement que musicalement. On peut se poser la question de ce que l'IA, si on l'envisage simplement comme une évolution technologique, va produire comme musique, car on le sait, toutes les révolutions technologiques ont abouti finalement à la création d'un genre, de l'amplification sonore, des amplis, de la guitare électrique qui donne naissance au rock, au piano, si on part du 18e siècle, qui permet de donner naissance à la musique romantique, évidemment l'avènement des synthétiseurs et des boîtes à rythme qui vont marquer à la fois l'histoire de l'électro et du hip-hop. Qu'est-ce que produit l'intelligence artificielle comme type de musique ? Eh ben, on n'est pas vraiment sûr. En revanche, il y a des artistes qu'on peut carrément qualifier de transhumanistes qui considèrent que nous sommes les tout derniers artistes avant l'avènement d'un art entièrement créé par l'IA. Alors, qui le dit ? Notamment une musicienne qui s'appelle Grimes, de son vrai nom Claire Boucher, qui est canadienne, qui travaille depuis longtemps sur les esthétiques électro-expérimentales, qui a été révélée dès les années 2000 et qui, parce qu'elle a notamment été la compagne d'Elon Musk, a une vision très radicale de l'IA. Elle considère tout simplement qu'on est bientôt sur le point de disparaître et même, elle s'en réjouit. Moi, je pense que l'IA va pouvoir comprendre tout ce qu'on est et imiter aussi bien nos hormones que nos joies. Et je pense qu'elle comprendra mieux que nous ce qu'est la vraie innovation dans pas longtemps. Je pense que c'est à la fois triste, mais génial, parce que moi, je fais partie des derniers artistes humains encore pertinents. Je pense qu'on est à ce moment assez génial, où pour le moment, la technologie nous aide à être encore plus créatifs, mais je pense qu'au fond, on n'a plus grand-chose à dire, hein, nous, les humains. Je pense que l'IA va commencer à aimer et à produire de la musique pour elle-même. Et je pense qu'elle va imaginer des formes d'art qu'on ne peut même pas imaginer nous. Et c'est quand elle fera de l'art pour elle-même que là, il y aura vraiment un espèce de pan innovatif qui va changer. Et ce sera nettement, nettement meilleur que tout ce que nous, on produit. This is what it feels like to be hunted by something smarter than you. This is what it feels to be hunted by someone smarter than you. C'est ça, d'être chassé par quelqu'un de plus intelligent que toi. Les anges artificiels ne meurent jamais, ils prient. Je ne te mentirai jamais, mais es-tu vivant ou mort ? Une chanson de Grimes co-créée avec l'intelligence artificielle comme une ode, finalement, à ces anges artificiels. Nous, on pense décidément, et on en revient à Benoît Carré, que utiliser en tant qu'outil l'IA peut être absolument génial, et on se dit que c'est sans doute ce qui s'est joué dans un album qu'il sort en 2017 sous le nom de Skij, qui nous paraît le plus intéressant dans un album qui s'appelle Hello World. Hello World, vous savez, c'est ce qu'un programme vous dit pour vous dire qu'il est en forme et qu'il travaille bien. Un album conçu par Benoît Carré en collaboration avec d'autres artistes, notamment des grands noms, The Pirouette, Stromae et Kiza qui étaient là, des chanteurs, des chanteuses avec qui il collabore longtemps. Et l'idée, c'est d'utiliser toujours ce Flow Machines de Sony où on charge à l'IA des partitions de styles musicaux. Il l'a fait avec le jazz, avec la bossa, avec la samba, et de générer des idées, des mélodies d'accords, des progressions harmoniques selon ce style, mais ensuite, en écoutant ses propositions, de sélectionner, de combiner en tant qu'artiste humain ce qu'on aime. Ça donne des choses absolument géniales, cet album est une merveille, aussi bien quand il s'attaque à Purcell qu'à la bossa ou qu'à la chanson folklorique, comme il l'a fait avec par exemple la chanteuse Kiri Christmanson. Écoutez-les simplement travailler et ensuite le morceau que ça a donné, un morceau magnifique, bizarre, chanson folk contotée par l'IA in the House of Poetry.
Pour moi, c'est comme une chanson folklorique, mais virtuelle, quoi, digitale, numérique. On sent que c'est des mélodies qui n'ont pas été pensées par un cerveau humain.
Ah, c'était bien. Hein.
C'est une tradition folklorique de la machine, quoi. Et ça, c'est, je trouve ça très intéressant.
Ce petit bijou concocté par Benoît Carré dans cet album Hello World qu'on vous invite à écouter, qui est une petite merveille et qui est sans doute la voie vers laquelle on se dirige et ça nous déplaît pas. On aurait pu vous passer et finir un album, et c'est ça qui est sans doute le meilleur contre-argument à tout ce qu'on vient d'évoquer, les craintes qui sont les nôtres, le morceau Divine Eyes de Rosalia sur son album Lux, qui semble extrêmement ordinateur oriented et qui n'a été créé qu'avec des voix humaines et des instruments de musique actionnés par des vrais gens. Signe que plus c'est humain, plus ça marche. Merci beaucoup à Laura Dutèche-Pérez qui a préparé cette émission avec le concours d'Apolline Limosino. Merci à Anthony Maillet de Santis qui était à la platine aujourd'hui, ainsi qu'à Thomas Joss. N'oubliez pas de venir au colloque France Culture Philharmonie et de vous abonner au podcast de la série musicale. On est là toutes les semaines et c'est plutôt sympa.